Mola, archive sonore.
Il y a 2 ans, à 2 jours près, madame, c'était le 6 décembre 1996, nous trouvions déjà là pour parler de votre précédent ouvrage sur Nicolas II. Et si je fais ce rappel, c'est pour deux raisons qui me paraissent donner un éclairage nécessaire à notre rencontre d'aujourd'hui. L'existence, ou plus exactement l'histoire de Nicolas II et de Lénine, est très largement partagée. Ils sont pratiquement nés au même moment, le tsar en 1868, le révolutionnaire en 1870. C'est une histoire commune pendant 47 ans, 48 même, un demi-siècle, et quel demi-siècle ! C'est dire tout l'intérêt que le lecteur peut trouver à relire chacun de ses destins à son propre prisme, mais aussi au prisme de l'autre. Et à voir ce bouleversement russe, ou comme vous l'avez décrit, cette transition interrompue, dans la perspective de celui qui gouvernait et de celui qui cherchait à prendre le pouvoir, et je suppose d'ailleurs que pour l'historien, et même pour l'historienne, ce doit être un exercice fort stimulant. Et j'ai d'ailleurs noté avec intérêt que dans Nicolas II, vous attendiez la fin de l'hiver 1917 pour faire le portrait de Lénine, au moment où il revient d'exil, alors qu'à lire Lénine, tout, ou au moins l'essentiel, semble déjà écrit du destin de Vladimir Oulianov. Et cela m'amène à la deuxième observation, qui est la conclusion de votre Lénine, c'est que si celui-ci reste dans l'histoire comme le personnage peut-être le plus déterminant du XXe siècle, c'est pour les 4-5 petites années où il survivra à Nicolas II. Pour les 4-5 années où il détiendra le pouvoir. Étonnante répartition du temps dans l'existence et l'œuvre de Lénine, écrivez-vous. Voilà effectivement un destin historique qui n'a pas beaucoup d'équivalent et sur lequel nous aurons évidemment tout loisir de revenir. Je voudrais faire une troisième observation liminaire, c'est que vous publiez votre Lénine au moment où la perception de ce personnage, du moins pour le grand public que nous sommes, s'éclaire d'une façon beaucoup plus crue, beaucoup plus cruelle. Vous l'évoquez du reste vous-même. Longtemps, Lénine a apparu en quelque sorte amnistié ou absous des crimes du communisme soviétique aux dépens de Staline et de quelques autres. Or, des ouvrages comme le récent livre noir du communisme, quelles que soient les controverses qu'il a pu susciter, ne permettent plus aucune absolution. C'est un point sur lequel, si vous voulez bien, nous reviendrons également. Alors, je ne vais évidemment pas avoir l'outrecuidance de vous parler des qualités de cet ouvrage, et pour amorcer notre débat, je vous propose de poser une première série de questions pour baliser un petit peu le parcours de Lénine et après quoi, ce sera à vous la parole. La première chose que je voudrais vous demander, madame, c'est d'éclairer un peu la personnalité de Lénine, car c'est un bien singulier personnage, un peu popote, assez popote même, un peu petit bourgeois, avec, pendant une période de sa vie, ces deux femmes qu'il semble aimer également et qu'il abrite sous le même toit, mais en même temps, vraiment dépourvu de tout scrupule, d'un cynisme étonnant. Alors, qui était Vladimir Ilitch Oulianov ?
Bien, vous avez raison de poser cette question, parce qu'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est que j'ai toujours été impressionnée en lisant des biographies de Lénine, ou des livres sur la Révolution d'ailleurs, par le fait que on ne savait pas qui était Lénine. On parlait de sa volonté de faire la révolution, du révolutionnaire, mais on ne trouvait jamais d'homme dessous. Alors, ça peut s'expliquer par le fait qu'il a vécu peu de temps, il est mort à 54 ans, et qu'en plus, il a vécu essentiellement en exil, donc que les gens ne l'ont pas tellement vu. Alors, si j'essaye de résumer sa personnalité, le premier trait, dirais-je, qui me frappe, c'est la dureté. C'est un homme d'une exceptionnelle dureté. Il a été dur avec, bon, avec le peuple dont il a pris la responsabilité à partir d'octobre 1917 d'une façon incommensurable, il a été dur surtout, alors ce qui est beaucoup plus étonnant, avec tous ses compagnons de combat. À quelques exceptions près, exception de ceux qui ont été très soumis à sa volonté, à sa vision de ce qui devait se faire. Mais il s'est disputé avec tout le monde. C'était un querelleur de première grandeur. Il passait sa vie à exclure. D'ailleurs, l'histoire du parti qu'il a fondé est une histoire d'exclusion, de fraction, de rupture. Et il a eu des compagnons qui étaient des gens très remarquables, dont certains étaient vraiment l'un de ceux qui illustrent bien cette dureté. C'est un homme nommé Martov qui était un des compagnons de la première heure de son combat. Ils ont partagé le même exil en Sibérie. Quand il s'est fâché avec lui, tout simplement sur une question de doctrine, sur la manière de penser à la Révolution, et la Révolution était très loin, donc c'était, je dirais, proprement intellectuel, il l'a haï, après cela, rejeté, il n'a pas pu le détruire physiquement, mais il l'a vraiment détruit politiquement, et c'est à peu près le cas pour tout le monde. Alors, cette dureté, la même dureté, la même absence de pitié est frappante à l'égard de son peuple. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Songez qu'en 1921, il y a eu une famine terrible dans l'État qu'il a fondé, dans l'État des Soviets. Les morts se comptaient par millions, des cadavres jonchaient véritablement tous les bords de la Volga, les bords des routes, ça a été effrayant. Eh bien, il écrit paisiblement que, heureusement, grâce à cette famine, on va pouvoir confisquer les biens d'église. Lesquels biens d'église ont été les biens d'église et régler son compte à l'église. Et en effet, il a réglé son compte à l'église. C'est tout de même, les biens d'église confisqués, pas un sou n'est allé à soulager les victimes de la famine. Tout l'argent est allé à permettre à sa machine de fonctionner. Pas à lui, d'ailleurs, pas dans sa poche, c'était pas son caractère. Donc c'est ça qui est frappant, cette absence totale de pitié ou d'attention pour autrui. Et en même temps, et c'est ça qui est très contradictoire, dans la vie privée, mais sa vie privée s'est bornée à son cercle familial tout seul, hein. Son cercle familial, c'était sa mère, sa femme, sa belle-mère, ses sœurs, et à un moment donné, en effet, vous avez dit, les deux femmes, ça, à un moment donné, sa maîtresse, mais c'était, je veux dire que c'était pas, ça n'a pas été une grande histoire, hein, faut pas croire, ça n'est, il naît ça Armand. Et voilà, c'est ça le cercle familial, c'est-à-dire un cercle de femmes. Alors, avec ses femmes, il était très attentif. Il passait son temps pour les gens qui lui étaient proches, à se préoccuper, surtout dans les années de la Révolution, qu'ils soient couverts. L'une de ses collaboratrices, Alexandra Kollontai, qui a été ambassadeur en Suède, qui était une révolutionnaire, mais qui était très proche de lui. On voit qu'au moment où ça lui est complètement égal que les gens meurent de famine, il se préoccupe qu'elle ait un bon manteau de fourrure, qu'elle n'ait pas froid. C'est très contradictoire, cette personnalité. Alors, en plus, vous l'avez dit, c'est un petit bourgeois, c'est un homme de la très bonne société, issu d'une société privilégiée, qui a été élevé d'une façon à la fois tendre et très facile, très aisée. D'ailleurs, il a toujours eu une vie aisée. C'est une chose. C'est
contrairement à une légende.
Contrairement à la légende qui fait que les révolutionnaires ont la vie dure, lui n'a jamais eu la vie dure, même pas en exil. Il n'a jamais été vraiment en prison. Il a été, la première fois qu'il a eu des ennuis avec la police, on l'a tout simplement assigné à résidence dans la propriété familiale, ce qui était plutôt confortable. Son seul séjour en prison, ça a été 3 semaines, parce qu'il avait fait, entre son retour d'exil et un départ en exil, il a eu commis l'imprudence, alors qu'il était interdit dans la capitale, d'aller s'installer dans un petit hôtel, dans le village où se trouvait la famille impériale, ce qui n'était pas... C'était un petit peu arrogant, faut bien dire. Les gendarmes l'ont arrêté, mais il n'a pas été très mal. Il a été... Ce dont il s'est plaint, il a dit qu'il y avait beaucoup de punaises dans sa prison. Mais c'est son seul contact, je dirais, avec des lieux difficiles. Et quand il a été envoyé en Sibérie, c'est là aussi qu'on se dit qu'il y a un manque de pitié totale. Quand il a été envoyé en Sibérie, sa mère a expliqué aux autorités qu'évidemment, elle payait son voyage en transsibérien, dans ce qui s'appelait les wagons moules, c'est les meilleurs wagons qui soient, l'équivalent de la première classe, et qu'il fallait qu'il y aille évidemment sans aucun gendarme pour le surveiller, en voyageur libre, et c'est ce qu'il a fait. Et même, je dirais que sa mère s'est aussi préoccupée qu'il puisse aller non pas dans le lieu d'exil en Sibérie, on l'avait assigné parce que le climat n'était pas très bon pour lui, mais un petit peu ailleurs où c'était meilleur, où c'était plus favorable. Et les autorités ont dit, bon, bah, très bien, madame, si ça vous fait plaisir, allons-y. Tout ça s'est passé très bien. Donc, si vous voulez, c'était un homme habitué à ce que les choses soient simples.
Et une question que je me suis posée, parce que vous ne parlez jamais de cet aspect-là, est-ce que c'était un homme qui avait du courage, y compris moral et physique, ou pas?
Alors, je ne le dis pas clairement, c'est vrai. parce que je n'ai pas voulu faire un livre de polémique. Mais il est vrai, bon, il avait le courage de ses idées. Hein, il contredisait la terre entière. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Il considérait que sa personne était très importante pour la Révolution, même autant où il ne fait pas la Révolution, et que par conséquent, elle doit être préservée. Alors, il est parti. Sa vie se découpe en trois morceaux, si vous voulez. Jusqu'en 1900, il est en Russie. Il est parti en exil à l'étranger en 1900. Il y reste jusqu'en 1917. Et puis, il rentre dans son pays. Mais dans l'intervalle, il y a eu la Révolution de 1905. Là, pour des raisons totalement incompréhensibles, pour un homme qui a passé sa vie à vouloir faire la révolution, à expliquer que la seule chose qui compte... Et c'est vrai qu'au fond, je dis tout à l'heure que sa maîtresse ne comptait pas. Il a eu une maîtresse, c'est la révolution. C'est le rêve de sa vie. Mais le jour où il y a une révolution en Russie, il n'y va pas. C'est tout de même extrêmement curieux. Il a mis 10 mois pour se déplacer, aller voir à quoi ressemblait la révolution. Et au moment où il y va, c'était légal d'y aller. D'autres se sont précipités, participer au mouvement révolutionnaire. Quand il arrive, tout est fini. Donc il regarde et puis il repart. Mais pourquoi il a attendu si longtemps alors que les autres allaient participer aux événements? Parce qu'il considérait qu'il devait finir des articles, aller participer à des colloques socialistes, etc. Et la seule fois où il a eu, je dirais, à faire preuve davantage, à s'engager davantage, c'était à l'été 1917, où, entre la révolution de février et la révolution, le coup d'État qu'il va faire, car ce n'est pas une révolution, il avait tenté un petit putsch. Le petit putsch, ça n'a pas été un succès. Et à ce moment-là, le gouvernement qui est encore en place, le gouvernement bourgeois issu de la révolution de février, a fait arrêter ses compagnons. Et alors lui, il a décidé de s'enfuir. Et il y a eu un grand débat parmi ses compagnons pour savoir s'il ne devait pas se faire arrêter comme tout le monde, si ça n'était pas plus convenable. Et je dirais que la majorité, y compris Staline qui était là, la majorité pensait que ça serait peut-être pas mal qu'il se fasse arrêter. Mais il a décrété qu'il n'était pas question qu'on l'arrête et il est parti se cacher en Finlande où il va rester jusqu'à la veille du coup d'État qu'il va organiser. Et il va rentrer, ça c'est un épisode très comique, précisément pour qu'on ne le reconnaisse pas. Vous savez, c'était un petit homme avec une barbe roussâtre un peu maigrelette. Et chauve, il a toujours été chauve, depuis le très jeune âge. Et alors là, pour qu'on le reconnaisse pas, il s'était mis une perruque, il avait rasé sa barbe, et en plus, il s'était fait une sorte de pansement. Les gens qu'il rencontrait croyaient qu'il avait un abcès dentaire, parce que tellement c'était comique. Et alors l'affaire était d'autant plus drôle qu'il était accompagné de celui qui sera son fidèle à ce moment-là, qui est Zinoviev, et qu'il a supporté, parce que Zinoviev était un homme très lâche, en effet, et qui toujours était d'accord avec ce qu'il disait. Sauf pour faire le coup d'État. Là, il a tout de même été plus prudent. Et Zinoviev, lui, avait une belle chevelure et pas de barbe. Alors il s'était mis... C'était un grand gaillard, contrairement à Lénine, qui était petit. Et Zinoviev, c'était lui, mis une fausse barbe et s'était rendu chauve. Alors ces deux individus qui... C'est comique, si on pense qu'à l'heure de la Révolution, ils étaient comme ça, et les gens qui le rencontraient n'y comprenaient rien du tout. Mais enfin, ça, c'est un détail. Mais tout cela pour dire que... Je ne dirais pas qu'il était lâche, mais il est certain qu'il n'a jamais voulu aller dans une situation difficile.
Dernier point sur sa vie. Il a eu des problèmes de santé, de nerfs un peu tout au long. Est-ce que ça a pesé sur son action politique?
Je dirais non, mais c'est certain. Il avait deux choses. D'une part, il avait un système nerveux extraordinairement fragile, puisqu'il avait jusqu'à la Révolution. Après, ça s'est arrêté. Mais jusqu'à la Révolution, jusqu'à ce qu'il rentre en Russie, il avait des dépressions nerveuses périodiques, des grandes dépressions nerveuses. Il tombait dans un état complètement léthargique. Et sa femme, qui était une forte femme à ce moment-là, le prenait sous son bras et l'emmenait faire des grandes vacances de plusieurs mois dans la montagne, dans des endroits tout à fait isolés et agréables en Suisse, dans des lieux de repos moral. Et il arrêtait toute activité. Pourquoi avait-il ces dépressions? Personne n'en sait rien. Mais ce qu'on en peut dire, et c'est très intéressant, dans les archives, il y a des carnets d'adresses. Et les carnets d'adresses sont pleins d'adresses de médecins. Il est certain qu'il était, et notamment de médecins des maladies nerveuses. Il devait être hypochondriaque, parce que dans sa correspondance, on voit sans arrêt qu'il se préoccupe de sa santé, de celle de sa femme, de celle de ses proches, mais à un point rare. Il écrit à sa maîtresse, aujourd'hui ma femme a 39 de fièvre, elle a une angine. Le lendemain, il dit, ah non, mais elle va mieux, elle n'a plus que 38. Enfin, ces problèmes, avoir 38, 39, être enrhumé, c'était une préoccupation constante. Et alors, en plus, pour ce révolutionnaire, il n'était pas du tout égalitaire et il ne croyait pas aux médecins, je dirais, de ville. Il ne croyait qu'aux grands professeurs. Ça, c'était aussi un trait très intéressant. Il ne voulait jamais voir le médecin de quartier. Il lui fallait le plus grand professeur, alors ce qui fait qu'il se déplaçait à travers l'Europe pour aller voir le plus grand professeur pour quelque chose. Tout ça s'arrête le jour où il fait sa révolution. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose du côté, il avait une maladie cérébrale. D'ailleurs, son père est mort d'une maladie cérébrale. Il est mort d'une dégradation progressive du cerveau qui a duré plusieurs mois. Il a eu des attaques cérébrales, comme on dit couramment, répétées, qui ont fini par le laisser paralysé et probablement très, très diminué intellectuellement. On a toujours prétendu que ce n'est pas vrai. Mais maintenant, quand on regarde les photos, ça paraît tout à fait vrai qu'il était... Et d'ailleurs, il y a des témoignages qu'il n'avait plus une vraie conscience à la fin. Et il y a un musée où on a conservé en Russie le cerveau de Lénine. Et c'est très intéressant parce que l'un des deux lobes du cerveau ressemble à une éponge qui est complètement usée. Tandis que l'autre... Ça, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'était certainement une maladie dégénérative du cerveau. Alors, est-ce que ça a pesé sur ses activités? Je n'en sais rien. Mais ce qui est vrai, c'est qu'entre ses premières attaques, il était dans son lit à la campagne et il passait son temps à envoyer des messages à ses collaborateurs en demandant si on avait bien songé à déporter les intellectuels, tous les gens pour qui il avait donné des instructions de répression, ce qui prouve que le cerveau fonctionnait tout de même dans une direction.
Il y avait au moins un côté qui...
constant.
Deuxième question. Dans tous ces débats qui ont été ceux des révolutionnaires russes et plus largement du mouvement révolutionnaire international, c'est Lénine qui l'a emporté. Parce que, semble-t-il, il a eu des intuitions qui se sont révélées les plus opérationnelles, notamment le rôle, la fonction du parti. Alors, comment résumeriez-vous, comment expliqueriez-vous la spécificité de l'apport de Lénine à l'héritage marxiste?
Bon, alors je dirais d'abord, et ça rejoint un peu la question, ça va au-delà du caractère. Il avait incontestablement un génie stratégique. Il avait deux choses. Alors, dans sa personnalité intellectuelle, et on verra après ce que ça apporte au marxisme, il avait un génie stratégique, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas utilisé jusqu'en 1917. Ça, c'est très curieux. Enfin, mais le jour où il a considéré qu'il était en situation de l'utiliser, alors ce génie stratégique a fonctionné à fond. Et je ne crois pas qu'il y ait dans l'histoire de ce siècle un homme qui ait une pareille aptitude, tout d'un coup, à saisir les circonstances qui lui sont favorables et à en faire le meilleur usage. Deuxièmement, il avait des intuitions géniales, absolument géniales. C'est un homme qui a écrit une œuvre considérable. Hein. Il y a 56 volumes, de 5 à 600 pages chacun de ses écrits. Alors bon, une partie qui correspond à l'époque du pouvoir, ce sont des télégrammes, des notes qu'il donnait, des instructions. Mais le gros, ce sont des œuvres qu'il a écrites et qui sont extraordinairement intéressantes, mais pas, ça ne rentre pas dans la catégorie géniale. Ce qui était génial, c'était les intuitions. Et il a eu des intuitions fulgurantes. La première, et toutes, je dirais, modifient le marxisme qui était très théorique. La première, c'est celle qu'il a eue au début du siècle. Quand il commence à penser comment on fait une révolution, il a incontestablement compris qu'on ne faisait pas une révolution comme ça, comme le croyait Marx, en attendant gentiment que la classe historique joue le rôle que l'histoire lui assignait. Pour Marx, l'histoire était l'histoire de la lutte des classes. Lénine ne croyait pas un traître mot de cette affaire. En tout cas, il pensait que c'était très bien. Mais cela dit, premièrement, la classe ouvrière, la classe historique de son temps, il considérait qu'elle n'avait aucune conscience de classe, et il l'a écrit très brutalement. Et il considérait qu'il n'y avait pas de classe qui ait des consciences particulières de leur devoir historique. Et du même coup, ça l'a conduit à l'intuition géniale qu'on ne faisait pas une révolution comme ça, en attendant la bonne volonté d'un groupe social ou des circonstances favorables, qu'il fallait un outil. Et que cet outil, c'était un parti, mais d'autres hommes avant lui, Blanqui, d'autres ont bien imaginé qu'un parti politique, c'était utile. Mais lui considérait qu'un parti politique, ça n'était pas ce que l'on croyait à l'époque, c'est-à-dire des gens qui se rassemblaient pour discuter et dans le but de faire quelque chose, mais que le parti, c'était une association de révolutionnaires professionnels ou de professionnels de la révolution, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas spécialement être nombreux, mais que ce soit votre métier qu'il fallait le faire, que ces professionnels de la révolution devaient être obligatoirement, je dirais d'une certaine façon, qu'ils étaient la conscience de la société, c'est-à-dire du même coup, ça devait être des intellectuels, c'était évident, et au fond, ils faisaient confiance qu'aux intellectuels, et que c'était eux qui devaient se substituer à la société, notamment à la classe ouvrière. Et il a fondé toute son action sur cette volonté de fonder le parti, Hein, et il a fait ce parti qui a été au fond très longtemps un tout petit groupe qui devient important à partir du moment où, en gros, la révolution de février est faite et quand il entre en Russie en avril 17, quand il a les moyens de ramasser des gens, de ramasser des troupes. Mais le noyau, c'est ça, ce sont ces professionnels de la révolution. Et là, il a très bien compris quelque chose qui est la vérité de notre temps, c'est que ce sont des professionnels qui peuvent faire bouger le monde. Et s'y ajoute une seconde intuition qui est inscrite dès ce moment-là dans ce livre qui s'appelle « Que faire ?», qui est le bréviaire du révolutionnaire et le bréviaire du parti, c'est que l'outil premier pour mener une société, c'est la presse. Pas vous, je dirais vous qui me direz le contraire.
Hein. Bon, temps.
Il était convaincu, et je dirais qu'il était convaincu qu'il fallait, atteindre les esprits, que pour ça, à l'époque, les médias, c'était la presse, c'était des journaux, des pamphlets, tout ce qu'on voudra. Et par conséquent, mais qu'il fallait que les deux étaient liés. C'est-à-dire que le parti, c'était le journal du parti et le parti, c'était la même chose. Et d'ailleurs, au début, le comité central de son parti, c'était tout simplement le comité de rédaction du journal. Et il a fondé parce que dans toutes les querelles dans lesquelles il s'est engagé, forcément une partie, il s'est même trouvé minoritaire dans son propre journal, puisqu'il avait tout de même affaire à des gens qui étaient de sa qualité. Et à ce moment-là, il disait, vous avez tort, je m'en vais, je fonde un autre journal. Il a toujours su faire ça. Et alors, à l'heure de la Révolution, ce qui a été capital, ce qui a été un atout extraordinaire, c'est là que je dis qu'il avait des intuitions géniales, eh bien, il a, on peut y revenir, avec l'argent allemand, la première chose qu'il a fait, il a acheté des armes et il a fondé des journaux. Mais des journaux en quantité industrielle, des petites feuilles de choux pour encadrer des secteurs de la société. C'est-à-dire qu'il avait une idée très moderne de ce qu'est le moyen d'atteindre la société, ce qu'on appelle les groupes ciblés. Et lui, il avait trouvé ça dès le début du siècle. C'est là que ses intuitions sont géniales. Alors, on n'est pas du tout dans le marxisme classique. Il a mis Marx les pieds en l'air et la tête par terre, parce que pour Marx, la révolution, c'était le produit de la conscience sociale. Pour Lénine, c'était pas du tout. C'était la manipulation de la conscience sociale par une minorité qui n'appartenait pas à la partie de la société qui était capable de faire la révolution, théoriquement qui était la classe historique de la révolution. Alors, il a eu deux autres intuitions géniales par la suite. L'une en 1914, quand il a vu que il savait pas comment on pouvait faire une révolution, et même il pensait qu'il n'y en aurait pas, mais il a lié deux idées, l'idée de la guerre et l'idée de la révolution. Personne n'avait jamais imaginé ça, et il a bien pensé qu'une révolution ne pouvait être que le produit de la guerre. Alors, c'est une intuition qui a une base, c'est qu'en 1905, la défaite de la Russie au Japon avait ouvert la voie de la révolution de 1905. Il a très bien compris ça, mais personne ne comprenait ça en ce temps-là. Et il a compris qu'une guerre était l'élément qui décomposait une société. Et il s'en est servi en 1917. Et puis, une dernière intuition géniale, je dirais, c'est une vision mondiale des choses, que personne n'avait aussi en son temps. Quand on parlait de mondial, on pensait à l'Europe. C'était une vision très, très continentale. Lui, il a pensé que tout était lié et que c'est en utilisant les diverses parties du monde que l'on pouvait faire avancer l'histoire. Donc, si vous voulez, c'est un homme, c'est très curieux, c'est un homme qui est né en 1870 et c'est un homme par la pensée de la fin de notre siècle.
Bon, c'est, vous évoquiez l'argent allemand. Effectivement, c'est très lié au rapport de la guerre et de la révolution. Alors, en fin de compte, est-ce que effectivement, c'est de l'argent allemand qui a financé la révolution?
Oui, et c'est une thèse que toute l'historiographie jusqu'à ces dernières années, à quelques exceptions près, récusait ça, disait c'est pas vrai, l'argent allemand, ça n'a pas existé. Les archives sont ouvertes, les archives russes, les archives allemandes, tout montre que c'est l'argent allemand qui lui a permis de faire la révolution. Alors pourquoi? Si vous voulez, en 1914, Lénine est un homme qui a passé sa vie à fabriquer un parti révolutionnaire, à écrire sur la révolution, mais on peut dire qu'il n'a rien fait. Jusque de 1900 à 1914, il est au fond installé dans des villes d'Europe occidentale, de Suisse, d'Angleterre, enfin il se déplace ses domiciles. Il vit d'une façon confortable dans son exil. Il continue à penser à la révolution, mais il joue aux échecs dans les bistrots avec ses compagnons d'exil. C'est pas un alcoolique, hein, je vous dis tout de suite. Mais c'est dans les bistrots qu'on joue aux échecs. Ça, il adorait les échecs. Et il rêve de la révolution. Mais on peut se dire qu'à cette époque-là, la révolution ne s'annonce pas du tout. Et elle s'annonce d'autant moins que la Russie évolue très vite, et lui-même l'a constaté dans un texte qu'il écrit en 1913, où il dit je vois pas comment on va faire la révolution si ça continue comme ça à progresser. Et puis, c'est là qu'intervient l'intuition, il dit s'il y avait une bonne petite guerre, ça arrangeait les choses. Alors, la bonne petite guerre arrive, qu'il n'espérait pas. Et là, alors, il se réveille véritablement. Et il réfléchit comment on peut, qu'est-ce qui peut servir à conduire vers la révolution. Sa théorie, c'est qu'il faut la défaite de la Russie. Ça aussi, c'est un élément, je dirais, qui est contraire à la pensée de Marx. Marx pensait que la révolution éclaterait, et pour cause, puisque c'était le produit de la lutte de classe dans les sociétés les plus avancées. Lénine comprend très bien qu'elle n'éclatera pas dans les sociétés industrielles les plus avancées. Et c'est là qu'il élabore la théorie du maillon le plus faible, par où on fera craquer toute la chaîne du capitalisme. Ça aussi, c'est tout à fait novateur. Mais il faut la défaite de la Russie, c'est-à-dire il faut le désordre dans un pays qui progresse. Et dès le début de la guerre, il se livre à une propagande défaitiste. Il utilise tous ses pamphlets pour dire aux soldats, ne vous battez pas, vous n'avez aucun intérêt. Et il mise sur la défaite de la Russie, il va dans des congrès, il mobilise, je dirais, tous ses partisans pour une propagande.
Il était très minoritaire, là.
Très minoritaire, parce qu'il était minoritaire chez lui, il était minoritaire dans tout le mouvement socialiste européen où chacun se sentait solidaire de sa patrie. Même les plus pacifistes, tout d'un coup, retrouvaient le sens de leur patrie. En 14, on était très patriotes. Alors, non seulement ça, mais il cherche... Il se rend compte, au début de la guerre, les soldats russes ne déposaient pas les armes, ils ne trahissaient pas, rien de tout ça. Alors, il cherche quels sont les éléments sur lesquels on peut miser pour décomposer la solidarité nationale. Et il a vu deux éléments, et là aussi, il est assez génial. Il y a un problème de la terre qui n'est pas réglé. Alors, jusqu'en 1916, ça ne sert pas, parce que les paysans sont des soldats, ils se battent. À partir de 1916, il proclame très fort, on donnera la terre aux paysans après la Révolution. Ça donne des idées aux paysans qui, après les grandes défaites, qui sont excédés, se disent pourquoi ne pas revenir et prendre la terre. Ça n'entraîne pas des défections encore, mais ça travaille la société paysanne. Et le second élément, c'est l'Empire russe est un empire multiethnique qui est traversé, je dirais, d'aspirations nationales qui n'ont pas été fortes jusqu'en 1915-1916, mais avec les défaites, incontestablement, la société est malade. Et alors, c'est là qu'il élabore cette théorie du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qu'il a commencé à élaborer dès 1913. Voilà. Et bon. Et donc, il a mis en place les éléments de décomposition de l'Empire. Alors, personne ne fait attention à ce qu'il raconte, parce qu'il est tout à fait minoritaire, jusqu'en 1916. Mais en 1916, l'Empire allemand est en grande difficulté, parce qu'il a deux fronts. Il a le front occidental, il a le front russe. Il a multiplié, Guillaume II, qui était le cousin de Nicolas II, a multiplié les appels à la paix séparée. Et Nicolas II est totalement intransigeant parce qu'il est très fidèle à l'alliance française. Alors le résultat, c'est qu'à partir de 1916, l'Empire allemand est découragé et se souvient, parce qu'on le lui avait signalé, de ce personnage étrange qui habite en Suisse et qui semble être un atout possible pour une politique, cette fois-ci non plus d'appel à la paix séparée, mais de décomposition de la Russie. Alors... on ne peut pas faire grand-chose, mais dès 1916, on trouve dans les archives allemandes des sommes d'argent qui sont mises de côté pour aider ce fameux Lénine dont personne ne sait rien à la chancellerie allemande, mais dont on dit qu'il pourrait être utile. Et puis alors arrive 1917, la révolution de février, Lénine a besoin... Alors là, à ce moment-là, il se dit qu'il faut rentrer en Russie, surtout que ses collègues le lui disent. Il a déjà raté la révolution de 1905. Il demande à rentrer. Alors il y a deux solutions. Où il fallait traverser les territoires contrôlé par les alliés ou amis des alliés. Et évidemment, les alliés qui savaient qu'ils prêchaient la défaite de la Russie tenaient pas à ce que ce front leur échappe. Ou il fallait passer par l'Allemagne. Alors, il demande à passer par l'Allemagne. Et alors là, non seulement il a l'autorisation, non seulement on le met avec plaisir, on lui donne un wagon, évidemment.
Plombé.
Oui, qui n'était pas plombé. À la vérité, tout simplement, il jouissait d'un statut d'extraterritorialité. Enfin, il avait demandé un statut d'extraterritorialité, mais ça a donné la légende du wagon plombé pour bien montrer qu'il n'était pas du tout, qu'il n'avait pas fait de concession. Mais surtout, on remet à ses collaborateurs des sommes d'argent considérables, absolument considérables, qui figurent dans les archives, précisément pour que son action soit une action efficace. Et c'est rentrant... Et alors, personne dans cette révolution n'a tellement d'argent. Mais lui, il rentre avec des moyens extraordinaires avec lesquels on a armé des partisans, tous ceux qui passent de son côté. Et ils fondent cette presse. Voilà. Et l'argent allemand, maintenant, plus personne. Je dirais que même aucun russe n'en doute plus, puisque maintenant, c'est sorti des archives.
Ça a été un apport considérable ?
Considérable. Je ne sais plus combien c'était. C'était en marque or, c'était quelque chose de fabuleux, absolument. C'était la somme la plus considérable qu'on ait jamais donnée à quelqu'un pour agir. C'était...
Alors, troisième thème, qui peut trouver son écho dans l'actualité de la Russie, c'est celle des nationalités. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, et du traitement de la question nationale. Il y a eu à ce propos des vifs débats, et notamment entre Lénine et Staline. Alors, comment situez-vous ce débat dans le cours de l'histoire russe, mais aussi dans ses conséquences ?
Bon, d'abord, c'est un débat qui a été un débat tardif, parce qu'à la vérité, Lénine avait proclamé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les peuples en ont profité à l'heure de la révolution, chacun est parti de son côté, ils ont proclamé leur indépendance. Et déjà, Lénine n'était qu'à moitié content, parce qu'il disait ils ont le droit de se séparer, mais surtout, ils ont le droit de se réunifier avec l'État révolutionnaire. Personne ne veut se réunifier avec l'État révolutionnaire quand la révolution survient. Et ils deviennent tous indépendants. Et il a tout de même eu, je dirais, à l'égard des nations proches, notamment de la Finlande, il a eu très tôt, dès 1919, la tentation. Il a signé l'acte d'indépendance et en même temps, ça lui faisait de la peine parce que la Finlande, c'était pour lui une partie de l'Empire. Il a essayé d'y susciter une révolution exactement du type de celle qu'on a vue en Europe de l'Est après 1945, c'est-à-dire par la manipulation et la force des armes, qui a raté. À cette époque-là, ça lui est un peu égal en ce sens qu'il se dit la révolution mondiale en Allemagne et ailleurs va venir relayer cet empire perdu. Et la révolution mondiale ne vient pas. Personne ne fait la révolution, malgré l'exemple russe. Il a tenté en 1920 une aventure révolutionnaire en Pologne. Il a envoyé ses troupes, les troupes de Tukhachevski en Pologne pour... Derrière ça, tendre la main au prolétariat allemand et enfin déclencher la révolution là où théoriquement elle devait avoir lieu. Et puis, elle a toujours pas eu lieu. Alors, à la fin de l'année 1920, il a compris qu'il n'y aurait pas de révolution, que c'était une cause perdue et qu'il n'y aurait pas de révolution mondiale. Et à ce moment-là, il a constaté qu'il avait un espace, que l'espace où il avait fait la révolution était très réduit par rapport à l'Empire et notamment qu'il était privé de ses ressources naturelles. Il le dit d'ailleurs du pétrole du Caucase, du blé de l'Ukraine, etc. D'où, dès 1920, l'idée qu'il faut reconquérir, que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes va se réduire au droit des peuples à se rassembler. Et par divers moyens, militaires et autres, il a entrepris la reconquête de l'Empire qui est achevée en 1922, de son vivant. Hein. Mais dans cette reconquête, il y a eu des gens qui se sont laissés faire. Et puis il y a ceux qui ne se sont pas laissés faire, et les plus réticents, c'était les Géorgiens, compatriotes de Staline, qui théorisaient la question nationale, mais il était commissaire en nationalité, tout simplement parce qu'il était Géorgien, qu'on s'était dit qu'il connaissait mieux le problème que d'autres. Et alors, Staline, il s'est comporté odieusement avec ses compatriotes. Dès lors qu'il lui résistait, et il y a eu, par suite d'une manipulation, en 1921, l'armée rouge a envahi la Géorgie, a mis fin à l'existence d'un gouvernement socialiste, menchevique, que toute l'Europe socialiste venait contempler avec émotion. La Géorgie a été occupée militairement, et ce sont des communistes qui sont au pouvoir. Mais même ces communistes ne voulaient pas se laisser faire par Moscou. Et à ce moment-là, puisque Moscou était devenue la capitale à ce moment-là, Staline, chargé de ces questions, s'est mis à brutaliser ses compatriotes, qui se sont plaints à Lénine, Lénine, dans un premier temps, n'a rien compris à l'affaire et a dit que ça n'avait aucune espèce d'importance. Et puis là-dessus, vers 1922-23, Lénine commence à tomber malade, il est, je dirais, plus affaibli, plus à l'écart des affaires publiques, et... les Géorgiens venaient toujours se plaindre des brutalités de Staline. Alors là, il a pris, je dirais, probablement a-t-il pris conscience de l'affaire, mais il a surtout pris conscience, parce que les nationalités, c'est là-dessus qu'il s'est disputé avec Staline, mais la vérité de l'histoire, c'est que à partir du moment où il est malade, Staline, qui vise le poste, se comporte en surveillant. Il est secrétaire général du parti à ce moment-là. Il se met à surveiller Lénine et à l'empêcher de communiquer avec les gens, à empêcher qu'on lui communique des dossiers. Là, Lénine a trouvé que son camarade Staline était un drôle de type. D'autant que l'autre, vraiment, lui interdisait qu'on lui porte des dossiers, tout ce qu'on voudra. Et c'est à ce moment-là que Staline, non content de surveiller les activités de Lénine et de donner des ordres aux médecins pour qu'on l'empêche de travailler... a un beau matin insulté la femme de Lénine qui lui a transmis les doléances de son mari. Et alors, très curieusement, c'est ce que je vous disais, c'est la personnalité de Lénine. Lénine qui a insulté des tonnes de gens dans sa vie et qui a laissé insulter les Géorgiens. Tout d'un coup, s'est dit, mais ce type est très grossier. Et ça a réveillé dans son esprit toutes les plaintes des Géorgiens. Et il s'est disputé, il a dit que Staline ne se comportait pas comme il fallait. Non pas sur le fond. Sur le fond, il fallait mater les Géorgiens. Mais dans la forme, qu'en plus, il était odieux. Et c'est là qu'il a dit qu'il ne fallait pas le garder au poste où il était. Et ce que je veux dire, ce n'est pas une rupture sur l'analyse de la question nationale. C'est une rupture sur les méthodes.
Et est-ce qu'on trouve le prolongement de ces débats aujourd'hui?
Aujourd'hui, il n'y a plus de prolongement de débat pour une bonne raison, c'est que l'Empire a été liquidé, et très curieusement, il a été liquidé non plus dans une guerre et dans une situation tragique, mais tout à fait pacifiquement. La liquidation du système soviétique et la liquidation de l'Empire ont été une décision froidement mûrie dans le cerveau de l'homme qui dirige encore aujourd'hui, enfin qui est encore aujourd'hui à la tête de la Russie, du président Eltsine, qui a compris que l'Empire était très coûteux pour son pays, que les gens n'avaient jamais pardonné, les diverses nationalités n'avaient pas pardonné qu'on les ait récupérés. Et à l'heure où le système soviétique commençait à s'affaiblir, mais ça a duré 20 ans, eh bien, des mouvements des volontés nationales se sont exprimés. Mais c'est un cas extrêmement intéressant de décolonisation qui se passe pacifiquement parce que le maître de l'Empire décide que ça suffit et il a mis fin à tout le système.
Alors, dernière question en ce qui me concerne, celle que j'évoquais au début, c'est un peu le bilan humain du léninisme. Vous-même, à un moment, avez employé le mot de génocide. La terreur, le sang, les centaines de milliers de morts, est-ce que c'était écrit dans la logique du léninisme?
Alors, Lénine n'a jamais dit qu'il fallait persécuter un peuple. C'est pas du tout ça qu'il a écrit. Mais en même temps, sa conception telle qu'il l'a développée dans ses écrits, c'est une conception extraordinairement organisée où la volonté des hommes n'a pas de place. Il était déjà contre l'expression de la volonté populaire à travers le suffrage universel. Et il l'a montré en 1917, puisqu'en novembre 17, il y a des élections qui étaient programmées avant qu'il arrive au pouvoir pour élire une assemblée constituante. Comme la société, alors qu'il était au pouvoir, que ses partisans étaient armés, la société ne lui a donné que 25% des suffrages. Ça aussi, c'est très rare. Ça montrait de la méfiance sociale à l'égard de cet homme qui s'était installé au pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ça. Il était déjà contre. Il voulait pas faire ses élections. Il disait les élections, c'est du crétinisme politique. Alors, il a dissous l'Assemblée. Il l'a fait dissoudre par ses hommes en armes, séance tenante. À peine s'était-elle réunie. Et plus jamais, il n'y a eu d'élections au suffrage libre dans ce pays jusqu'en 1992. Alors, donc, si vous voulez, il n'avait jamais dit qu'il fallait faire violence à la société, mais il va contre la volonté exprimée par la société dans les seules élections qu'il a été obligé de tenir. Deuxièmement, il avait fait des promesses. Il avait dit la terre aux paysans. Les paysans ont pris la terre puisqu'on leur a, il a dit la terre est à vous. Mais une fois qu'il a pris le pouvoir, il s'est aperçu que si les paysans disposaient de la terre comme ils l'entendaient, ils ne seraient pas maîtres de leur production. Les paysans ont une part au fond dans l'exercice de la vie économique. Et il a entrepris de revenir en arrière avec une brutalité extrême. D'ailleurs, pour obliger les paysans à livrer toute leur production, on s'est comporté avec eux d'une façon effroyable, puisqu'on a été jusqu'à, et ça c'est dans les archives, jusqu'à faire monter les paysans. D'abord, on trouve toutes les notes de Lénine, prenez 100 paysans, pendez-les, fusillez-les, et que ça serve d'exemple. 100, 500, etc., aller dans les villages. Et puis, on a même fait monter les paysans dans des camions pour les liquider plus facilement, et on lâchait les gaz, là. Bon, ce qui n'était pas des méthodes, je dirais, parfaitement... C'était des méthodes qui se pratiquaient pas tellement, ce temps-là. Alors, tout ça, c'est pas écrit... Enfin, je veux dire que jamais il n'a écrit qu'il fallait faire des choses pareilles. Mais il n'a pas une seconde critiqué que ça se fasse. Cette violence aux paysans fait que les paysans n'ont pas été en accord avec le système. Donc, où il fallait que Lénine accepte d'une certaine façon la volonté sociale, où il fallait faire violence à la société. Et tout naturellement, je dirais que sa conception, c'était tout de même que la société devait plier. Et puisqu'elle ne pliait pas, il fallait exercer la violence. C'est ça la tragédie du système. Et cette violence a été employée dès le début, puisque le premier camp de concentration, les premiers camps du goulag, sont créés en janvier 18, c'est-à-dire au moment même où il s'installe au pouvoir, quelques semaines après. Et d'emblée, au fond, les instructions qu'il donne, c'est la déportation, les arrestations. Il sent bien minoritaire et ne supportant pas le Parlement, il fallait au moins qu'il partage le pouvoir avec les gens qui avaient recueilli des suffrages aux élections, qui n'étaient pas ni des monarchistes, ni rien de tout ça. C'était le parti des paysans, les socialistes révolutionnaires, des socialistes. Il a dit d'emblée, non, je ne ferai jamais un gouvernement de coalition. Je ferai un gouvernement homogène et je gouvernerai. Bon, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Il voit la solution d'interdire les journaux, d'interdire les partis politiques et d'arrêter. Donc, si vous voulez, la conception de l'imposition de sa volonté et de son projet par la violence, elle était inscrite dans l'idée que nul dans la société ne pouvait, en dehors de son parti, gouverner.
Participer. Et en fin de compte, cet aspect, ça a été un petit peu occulté, on a chargé les autres, et parce qu'il fallait en sauver un.
Staline a pris la succession dans un système qui était déjà totalement organisé. Il n'a rien inventé, mais il a eu un quart de siècle pour pouvoir faire marcher la machine à violence à son gré. Lénine a eu peu de temps, lui a eu tout le temps. Alors, quand Staline est mort, la société n'en pouvait plus, c'est évident. Et ses successeurs ont pensé qu'il fallait soulever le couvercle de la marmite. Pour soulever le couvercle de la marmite, ils ont reconnu les crimes de Staline, mais s'ils avaient dit le système est mauvais, il ne leur restait plus qu'à rendre leur tablier. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit « Staline a perverti le système, mais le système est parfait ». La preuve, c'est que Lénine, qui était un génie historique sans précédent, ne voulait pas ça. Donc on a été conduit à valoriser Lénine et à séparer, à faire une coupure entre les deux, totalement artificielle, totalement fausse. Aujourd'hui, tout le monde sait en Russie que ça n'est pas comme ça que ça s'est passé. Maintenant, ça devient clair. Et ce qui est intéressant, c'est que actuellement, Lénine, les gens n'ont plus du tout envie d'en entendre parler. Mais les pauvres gens nostalgiques du passé soviétique, parce que ça a été leur vie, eh ben comment ça se racontait que Staline, c'était pas si mal que ça?
Mais la statue de Lénine est toujours debout.
Les statues, on les a sorties de beaucoup d'endroits, mais la momie est toujours couchée dans le mausolée. On ne sait pas très bien. C'est comme l'histoire de Ionesco. On ne sait pas comment s'en débarrasser. Et tout le monde pense qu'il faudrait faire quelque chose, mais comment faire? Alors, il y a toujours de pauvres vieilles dames qui font des défilés autour en disant on ne touchera pas à Lénine. Elles sont minoritaires, c'est pas là le problème, mais on ne veut pas non plus les troubler.
Il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé qui, en fin de compte, est un des personnages, par certains côtés, les plus attachants du système, c'est Trotsky.
Ben, je vais vous dire, attachant, oui et non. Bon, c'était...
À certains égards. Voilà.
Trotsky avait quelque chose que Lénine n'avait pas, c'était des... Comme Lénine, il était d'une intelligence remarquable, mais il était beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus ouvert. Lénine s'intéressait à la Révolution. Son intérêt s'arrêtait là. Trotsky était un intellectuel, il avait des goûts artistiques, il était beaucoup plus, ses écrits le montrent, il a écrit sur l'art, sur la littérature, tout sujet sur lesquels Lénine était d'un conformisme déconcertant. Il était plus brillant aussi, d'une certaine façon, c'était un merveilleux orateur, ce que n'était pas Lénine. Lénine était un orateur efficace, mais pas merveilleux. Trotsky, il paraît que je n'ai entendu ni l'un ni l'autre, mais j'ai entendu des disques. Trotsky, la parole était, paraît-il, enchanteresse. Enfin, il pouvait mobiliser des foules, il avait une voix chaleureuse, toutes sortes de choses qui pouvaient servir. Mais il avait un trait de caractère que n'avait pas Lénine, qu'un de ses historiens a très bien décrit, Isaac Deutscher. Au fond, c'était l'homme, il était un peu un prophète. Et son enthousiasme pouvait retomber d'un coup, et il... Une fois la victoire acquise, il n'était plus capable de se battre d'une certaine manière. Et c'est ce qui est arrivé, parce qu'il a été l'artisan. En 1905, il ne faut pas oublier que lui, il est arrivé tout de suite en Russie. Il a été président du premier soviet de l'histoire russe, du soviet de Petrograd. À l'époque, c'était Saint-Pétersbourg. Il redevient président du soviet dans ce qui est Petrograd en 1917. Et je dirais que son prestige est lié à ce passé. Quand Lénine revient en Russie, les gens ne savent pas très bien qui il est. Ils ne sont pas très au courant. En Russie, on ne le connaissait pas beaucoup. Il avait un parti minoritaire. Trotsky avait le prestige précisément de son rôle dans la révolution de 1905 et de sa présence dès le début de la révolution de 1917, un peu plus tôt que Lénine. Mais il n'était pas un acteur. Et d'ailleurs, il avait un caractère d'une certaine façon moins déterminé, moins dur que Lénine, probablement, même s'il aurait été probablement aussi dur s'il avait eu le pouvoir. La preuve en est qu'il n'était pas bolchevique, il n'était pas dans le parti de Lénine, il était socialiste, mais pas bolchevique. Jusqu'en août 1917, il était ce qui s'appelait un internationaliste, il était menchevique, il était dans l'autre fraction, ces hommes se sont affrontés pendant des années. Et quand il voit la révolution, Trotsky dit « on va fonder un grand parti de la révolution ». Lénine n'a dit jamais de la vie. Si Trotsky veut me rejoindre, il vient dans ma fraction à moi. Eh bien, parce qu'il sentait que c'était l'amener à Canossa. Et c'est en effet ce que Trotsky a fait. En août 1917, il a rejoint Lénine. Mais évidemment, il a rejoint le patron. Alors que s'ils avaient fondé un nouveau parti, il est possible que Trotsky ait été l'un des deux patrons.
Monsieur.
Madame, vous avez parlé tout à l'heure des archives soviétiques et allemandes. Les unes et les autres sont-elles totalement ouvertes ? Et en ce qui concerne les archives allemandes, est-ce que vous pouvez nous dire d'où venait cet argent qui a favorisé les révolutionnaires russes et Lénine en particulier ?
Alors, je vais vous dire, d'où venait l'argent, c'est extrêmement simple. C'est la chancellerie allemande qui a dégagé cet argent. C'est-à-dire le gouvernement allemand. Ça, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a les textes. On leur avait fait des suggestions. L'attention avait été attirée sur Lénine par un étrange personnage qui était à la fois un ami de Lénine et une sorte d'agent très bizarre qui s'appelait Parvus. Et ce Parvus avait signalé dès 1915 à la chancellerie. Il avait fait une dépêche en expliquant les idées de Lénine. Et c'est un homme qui s'occupait de, vous savez, comme sont vous en légende comme ça, de commerce international. Il naviguait entre Copenhague, Londres, entre diverses capitales et surtout dans les capitales neutres. Et il avait fait un texte complet pour expliquer pourquoi Lénine pourrait servir les desseins de l'Empire allemand. Il pourrait servir à décomposer l'un des fronts. Et il y a des dépêches à la chancellerie qui disent très tôt, en 1915, il faut faire attention à cet homme et commençons à préparer des sommes. Et l'argent a été débloqué complètement. Il en a été débloqué en 1915 et dès 1916, c'était les gens qui dirigeaient l'Allemagne, le chancelier allemand, qui a décidé qu'il fallait le faire. Alors ça, c'est une chose. Alors les archives, vous savez, la question, je le sais, parce que moi, je suis président des archives diplomatiques françaises, donc je connais bien le problème des archives. Ça n'est jamais... C'est ouvert, mais il y a toujours des choses... On en trouve tout le temps. Il ne faut pas raconter de blagues. Les archives réservent toujours des surprises, soit parce que des documents ont été réservés, puisqu'on peut réserver pendant assez longtemps, soit parce qu'il en arrive un beau jour par miracle et quelqu'un vient déposer des archives. Mais les archives allemandes sont ouvertes pour une bonne raison, c'est la défaite de l'Allemagne. La défaite de l'Allemagne en 1945 fait que le gouvernement de l'Allemagne occupée, de l'Allemagne occidentale occupée, a dû ouvrir ses archives. Et les archives qui se trouvaient en Allemagne de l'Est ont été sous le contrôle du pouvoir soviétique. Aujourd'hui, tout est rassemblé, tout est accessible, mais tout était accessible depuis très longtemps. Tout le monde a travaillé dans des archives allemandes. Alors, pas dans ce qui était à l'Est, c'était une autre affaire, mais on y a travaillé. Quant aux archives qui étaient soviétiques, qui sont russes aujourd'hui, on a commencé à les ouvrir vers 1989-90, dans la fin du régime soviétique.
Monsieur ?
Je voudrais savoir comment il se fait qu'après la fin de la guerre, en 1918, les armées alliées n'aient pas réussi à aider les résistants russes, avec les généraux fidèles au tsar, et comment l'armée soviétique était embryonnaire à cette époque-là, et il y avait une résistance du côté des paysans, des classes. Et comment se fait-il qu'on n'ait pas pu les aider et empêcher le développement de la révolution de Lénine ?
Eh bien, je vais vous dire, là, il y a deux raisons. La première, c'est que les Alliés ont été très sensibles à la faiblesse militaire de la Russie à partir de 1915. La Russie a subi de très grandes défaites. Ils ont assisté avec inquiétude à une certaine décomposition du gouvernement impérial russe. Et ils se sont dit, à partir de la fin de 1916, qu'après tout, le tsar était une nullité, ou en tout cas qu'il ne pouvait pas rattraper le pays, et que peut-être un gouvernement, une révolution bourgeoise, car il s'agit d'abord d'une révolution bourgeoise, peut-être que ça mettrait au pouvoir des gens un peu plus en accord avec la société et qui seraient capables de maintenir ce front. La révolution de février a éclaté et les alliés ont été récompensés puisque les responsables de la révolution de février ont proclamé aussitôt, le premier président, le prince Lvov, a proclamé aussitôt le respect des accords conclus et le fait que la Russie ne sortirait pas de la guerre, ce qui a coûté extrêmement cher au gouvernement provisoire. Puis ils ont vu arriver ce Lénine. Et ce Lénine, au départ, il ne le prenait pas au sérieux. Justement, je l'ai dit tout à l'heure, personne ne savait très bien qui c'était. Ça leur aurait pas paru une affaire sérieuse. Il n'y a que les Allemands qui y avaient fait attention. C'est ça qui est intéressant. Eux avaient compris le parti qu'ils pouvaient en tirer. Alors, Lénine prend le pouvoir. Et quand on voit dans les archives anglaises, par exemple, les dépêches ou dans les archives françaises, personne, au départ, ne prend non plus cette affaire très au sérieux. Parce que la Révolution, ça a été un coup d'État, un coup de force, en octobre 1917. Qui se passe dans les deux capitales, à Saint-Pétersbourg et puis à Moscou, et ailleurs, on a l'impression que, au fond, chacun continue à vivre sa petite vie. Il a fallu du temps aux alliés pour comprendre. Alors, c'est vrai que Lénine annonce qu'il va faire une paix séparée et qu'il négocie la paix séparée. Mais à ce moment-là, les alliés sont convaincus que ça ne durera pas, que l'affaire est de courte durée. Et puis, qu'il s'effondrera. Alors, des armées, il y a eu une résistance, vous avez tout à fait raison. Des armées blanches se sont formées et des gouvernements blancs se sont formés un petit peu partout. Mais là encore, les alliés étaient empêtrés dans la guerre. Ils ne savaient pas très bien quoi faire. Ils n'ont pas vu le danger révolutionnaire. Et puis alors, en même temps, si vous voulez, la révolution leur semble pouvoir gagner l'Allemagne, c'est-à-dire décomposer l'Allemagne comme elle a décomposé la Russie, et ils se disent qu'après tout, si l'Allemagne cesse la guerre par la révolution, et l'Empire austro-hongrois aussi, c'est pas plus mal aussi. Donc, il y a eu de leur part une longue hésitation. Alors, vers 1919-1920, ils se sont dit, la paix de Brest-Litovsk étant signée, le régime de Lénine continuant, là, ils se sont dit qu'il fallait peut-être faire quelque chose. Et il y a eu des corps expéditionnaires qui sont allés dans le sud de la Russie, en Sibérie, mais sans grande conviction. Une fois encore, on se disait que ça finirait bien par se décomposer. Ils croyaient aussi que c'est l'amiral Kolchak, Denikin, tous ceux qui étaient à la fois des chefs de guerre et qui s'intitulaient chefs politiques, étaient plus forts qu'ils ne l'étaient. Et en fait, ils avaient des bonnes troupes, mais en même temps, ils passaient leur temps à se disputer. Ce qui est caractéristique de toute cette histoire révolutionnaire, ce sont les querelles intestines, les querelles entre les bolcheviques, les querelles entre les chefs des armées blanches. En plus, ils étaient assez gaffeurs. L'amiral Kolchak passait son temps à dire qu'il allait recomposer l'Empire. Alors, ce n'était pas un moyen de s'attirer la sympathie des nationalités qui, déjà, n'aimaient plus beaucoup les bolcheviques, mais qui se disaient, si c'est pour recomposer l'Empire, restons entre les deux. On peut dire qu'il y a eu une méconnaissance par les alliés de l'importance du phénomène révolutionnaire. Alors là où les gens se sont vraiment émus, c'est quand Lénine a proclamé avec beaucoup de vigueur qu'il ne reconnaissait pas les dettes contractées par le régime précédent, les emprunts russes. À ce moment-là, tout le monde s'est énervé. Mais c'était trop tard.
Je voudrais poser une question qui est à cheval entre celle de monsieur et votre réponse. C'est quand même assez hallucinant, parce que ce coup d'État, il se prépare au grand jour, on en discute, on vote des motions, etc. Et ça se passe.
Ça se passe au grand jour, mais quand il se passe, on est en octobre 1917, le gouvernement qui est dirigé par Kerensky agonise. Et il agonise toujours sur cette question de la guerre, parce que c'est ça le fond du problème. Lénine, c'est les armées russes ont été vraiment mises à mal, elles sont dans un état déplorable, enfin les défaites ont été d'une extrême gravité. Ça aussi, je crois qu'il faut le dire, une des raisons de ces difficultés, c'est l'alliance franco-russe. L'empereur de Russie avait vraiment promis à la France qu'il la soulagerait sur son front à l'époque de la guerre. Et du coup, il a cédé un petit peu aux demandes françaises qui lui demandaient d'engager ses troupes directement sur le front allemand et pas sur le front autrichien ou de partager ses troupes. Ce qui est une des causes majeures de défaite, parce que chaque fois que les troupes russes ont été sur le front autrichien, elles ont écrasé les Autrichiens. Dès qu'elles ont été face aux troupes de l'Empire allemand, elles ont été écrasées. Alors, en 1917, la société n'en peut plus. Les pertes sont considérables. La misère gagne tout simplement parce que le pays n'est plus administré, parce que tout s'est effondré. Donc la première révolution se fait spontanément. Et c'est à partir d'avril 1917 qu'on voit revenir. Alors c'est là que personne ne se méfie. Ce Lénine, il arrive en avril 1917. Personnage peu connu. La situation n'est pas favorable à ses thèses. Ceux qui connaissent ses thèses, c'est-à-dire que ce parti doit tout diriger, voient qu'au contraire, dans la Russie révolutionnaire, ce sont des soviets, c'est-à-dire des ouvriers, des soldats. C'est la base qui est en train de diriger le pays. Et quand il rentre, il a cette phrase épatante, il dit tout le pouvoir aux soviets. Alors tout le monde croit qu'il s'est converti à la révolution par la base. Pas du tout. Il dit ça veut dire dans son esprit tout le pouvoir aux soviets, que mon parti va immédiatement investir et prendre en main. Mais ça explique aussi, si vous voulez, que personne, ni le gouvernement provisoire, qui se dit ce type est un type bizarre, qui au fond a l'air d'accepter la révolution telle qu'elle se déroule, n'a su, je dirais, ni prévenir son arrivée, parce qu'il se demandait s'il fallait le laisser rentrer, ni l'ensemble des gens qui font de la politique, ni à l'extérieur de la Russie, il était suffisamment interne suffisamment peu convaincant pour qu'on considère que c'est un personnage de peu d'importance. Alors, en plus, les choses se sont passées très curieusement. Vous comprenez, la révolution d'octobre, son coup d'État. Quand on lit attentivement le déroulement des opérations, c'était assez comique. Le gouvernement provisoire, tout de même, c'était un gouvernement qui, théoriquement, avait une armée à son service, une armée qui était très affaiblie, mais elle existait, qui avait une police. Lénine, qui avait l'esprit comploteur, qui savait ce qu'était une révolution, a pensé que la première chose à faire était d'investir dans la capitale le télégraphe, puisque c'était le grand mode de communication. Bon, il a envoyé 20 types pour investir le télégraphe. Au télégraphe, il y avait 16 types pour le défendre. Alors, ces envoyés ont commencé par prendre la place forte, et parce que personne ne savait que c'était important. Et puis, ils s'y installent. 2 heures plus tard, le gouvernement provisoire envoie 20 autres bons hommes pour les déloger, et il les déloge. Il y a eu une sorte de balai. Les choses avaient l'air tellement simples que personne ne prenait ça au sérieux. Et que tout d'un coup... Et le gouvernement provisoire, pendant ce temps-là, était réfugié dans le palais d'hiver où il siégeait. Et c'est tardivement que Lénine s'est avisé qu'il fallait aussi arrêter ces gens-là. C'était un coup d'État très bien mené.
À qui la parole ? Oui ?
Est-ce qu'on peut se fier à ces archives ? Est-ce que vous pensez qu'elles ont pu être épurées ?
Les archives sont toujours épurées, madame, je vais vous dire. Partout, dans tous les pays, on fait même des nettoyages. Il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Mais l'essentiel est là, si vous voulez. Il manque probablement des choses. Je dirais qu'il manque, il y a quelque chose qui manque. C'est tout à fait intéressant, parce que Lénine a disposé, depuis 1907, de beaucoup d'argent. D'abord, l'argent des hold-up fait par ses collaborateurs, l'argent de détournement d'héritage, et puis de l'argent allemand à partir de 1915. Bon, la trace... on sait où est allé l'argent, c'est-à-dire chez ses collaborateurs. Il n'a jamais voulu y toucher. Mais comment ça lui revient à lui ? On n'a pas la... Y a personne ne signait de chèque. Hein. L'argent se dépassait. Mais ça, c'est tout le problème. Il faut... toute l'histoire est construite. Vous savez, quand vous faites l'histoire de sociétés antiques, de quoi on dispose ? On dispose d'une inscription sur un bout de pierre. Et on reconstitue à partir de là. Là, on a des documents. C'est tout de même une sacrée différence.
Oui, monsieur ? Dans le fond.
Monsieur, on n'entend pas.
Voilà, attendez, le micro vous arrive.
À propos des questions des nationalités, est-ce que vous pensez sérieusement que c'est un génie de Yeltsin, mais d'avoir décomposé le système, ou bien c'est qu'il a voulu jouer un peu avec les Biélorusses, les Ukrainiens, la carte nationale? Nationaliste. Je pense que c'est une instrumentalisation, d'autant plus que l'une de vos thèses, la dislocation ne devait pas venir, par exemple, de la Russie, ni de la Biélorussie, de l'Ukraine, mais plutôt des républiques musulmanes d'Asie centrale. Donc, je pense qu'on est à peu près dans la même logique que le Serbe et tout cela qui instrumentalise le nationalisme. Et la preuve, c'est que la Russie de Yeltsin n'a jamais voulu de l'indépendance des autres États indépendants. Les relations internationales, on voit comment...
Alors, monsieur, je vais vous répondre. Les nationalités ont été instrumentalisées par Lénine au début de la Révolution. Mais dans la période récente, c'est une situation différente. L'Empire se décomposait. C'est tout à fait la vérité. Et je dirais qu'il y avait... Les nationalités profitaient de l'Empire parce qu'il y avait un transfert de ressources formidable, mais elles ne vivaient plus de la vie soviétique. On peut dire que les gens ne se sentaient plus soviétiques, ils se sentaient autre chose, ils se référaient à leur conscience nationale, mais le système soviétique leur était utile pour pouvoir, les plus pauvres par exemple en Asie centrale, ils avaient besoin de l'argent du pouvoir central et qui venait très largement d'une plus grande prospérité d'autres régions. Alors, grosso modo, jusqu'en 1985, tout le monde disait, tout le monde disait, cet empire est extrêmement, ce système soviétique est extrêmement dominateur, et les vrais dominateurs, ce sont les Russes. À partir de 1985, les Russes ont fait leur compte, ils se sont aperçus qu'en fait, dominateurs, ils étaient, d'une certaine façon, les plus mal lotis. Les plus mal lotis parce que les transferts de ressources... Allez, et ça c'est une chose qu'on ne sait pas assez, aller essentiellement du centre vers la périphérie. C'est-à-dire que la Russie matériellement était moins bien lotie que les régions périphériques, que les républiques périphériques. Et deuxièmement, ils se sont aperçus qu'à force de fournir des cadres, des infrastructures aux diverses républiques pour les faire tenir tranquilles, c'est ça le fond du problème, eh bien, eux-mêmes étaient largement pénalisés. Et ça se traduit par une chose qu'on ne sait pas assez, parce qu'on dit maintenant qu'il y a une catastrophe biologique et que l'espérance de vie se raccourcit, mais ça a commencé à se raccourcir en 1970, il y a maintenant presque 30 ans de dégradation de l'espérance de vie. Alors, c'est quand on a regardé attentivement les statistiques, quand les Russes les ont regardées, ils se sont aperçus que le lieu central de la catastrophe biologique, c'est-à-dire le raccourcissement de l'espérance de vie et la mortalité infantile galopante, c'était chez eux. Alors là, le constat qu'ils ont fait, on voit ça monter. C'est le sentiment que si c'est comme ça, ben c'est que l'Empire, c'est pas une affaire. Donc il y a eu, c'est là que c'est plus une instrumentalisation. Il y a eu chez les Russes une volonté aussi de se défaire de l'Empire, de se dire peut-être que tout seul, on s'en sortira mieux. Et c'est à ça que correspond ce qu'a voulu Eltsine. Et vous dites, il est instrumentalisé, moi je vais vous dire. En 1989, quand on lui a posé la question, il a dit, écoutez, ça me fera mal au cœur, à moi russe, qu'au moins les Slaves ne restent pas ensemble. Mais s'il faut en passer par là pour sauver la Russie, eh bien on le fera. Ça va beaucoup plus loin, si vous voulez. D'ailleurs, il n'y a rien à tirer. Vous savez, aujourd'hui, les Ukrainiens sont indépendants. Les Biélorusses, ils ont un président à moitié fou qui veut refaire l'Empire, mais parce qu'il est convaincu qu'il sera le prochain président de l'Empire reconstitué. Mais les Biélorusses ne veulent pas dans leur ensemble revenir avec la Russie. Ils considèrent qu'ils sont Biélorusses. Maintenant, tous ces gens-là veulent vivre tout seuls et de préférence veulent vivre avec très proche de l'Union européenne et le plus loin possible de la Russie. Et de préférence aussi membre de l'OTAN. Alors vous comprenez que ce n'est pas l'heure où quelqu'un peut reconstituer l'Empire. On ne joue pas facilement avec les nations. Très facilement, ça se retourne contre celui qui joue avec.
À qui la parole ?
Oui. Je pense que le monsieur avait raison, parce que je ne suis pas d'accord avec votre concept en général pour l'écrasement d'Empire pour les raisons nationales. J'étais pendant cette situation toutes les dernières années en Russie. Je pouvais avoir les preuves qu'il n'y avait pas existé beaucoup de nationalisme dans la République intérieure. Et maintenant, je peux dire que certaines séparations et certains nationalismes se manipulent maintenant à nous pour le pouvoir qu'il veut garder comme Yougoslavie. C'est ça, c'était la question de monsieur.
J'ai compris la question de monsieur, mais justement, je lui ai répondu en lui disant qu'à mon avis, c'est quelque chose qui s'est développé, qui n'était pas une manipulation. Ça, c'est la thèse que vous dites, c'est la thèse de Mikhail Gorbatchev, qui dit tout à fait paisiblement que ça a été manipulé pour prendre sa place. C'est sa thèse intégrale. C'est comme ça qu'il l'expose. Je ne le crois pas. Mais vous êtes libre de garder votre opinion, mais je ne le crois pas. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui en Russie, où les Tchétchènes sont partis, je dirais, considèrent qu'ils sont indépendants à l'intérieur de la Russie, ce qui est beaucoup plus grave.
Oui, ça, c'est, oui, vous avez raison, parce que.
Et oui, sûr, où les Tatars considèrent.
Si le système économique n'est pas rentable, bien sûr que j'en ai les zones et plus de rentabilité. Ça, c'est
vous savez, madame, on est au siècle de la décolonisation. Il n'y a plus d'empire. C'était le dernier empire. Et malgré tout, il ne faut pas oublier que cet empire s'est écroulé en 1917. Alors, on l'a reconstitué. Bon, les gens ont vécu, le système soviétique, et puis un beau jour, les informations circulant. N'oubliez pas que le rôle des radios occidentales, la Voix de l'Amérique avait un programme dans toutes les langues de l'URSS, qui fonctionnait fort bien. Malgré tout, les gens ont été convaincus que, aussi à la fin du XXe siècle, on ne vivait plus dans des empires, qu'on pouvait avoir des destins séparés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de mouvement en faveur de l'indépendance. Il y a eu très peu en Géorgie, il y avait quelque chose d'actif dans les États baltes. Ailleurs, dans la partie occidentale de l'Ukraine, ce n'était pas des mouvements violents. Mais aujourd'hui, les gens sont convaincus qu'ils sont indépendants et qu'ils peuvent rechercher des formes peut-être de cohésion à l'intérieur d'un système du type, non pas de l'Europe que nous aurons au début du siècle prochain, mais de ce qu'a été de ce qu'ont été nos systèmes d'alliance et d'intérêts communs de l'Union européenne au cours des 40 dernières années. Je crois que l'Union européenne est un modèle que certains États de l'ex-URSS regardent avec intérêt, mais vivre ensemble, non, c'est fini, je crois. Et on ne vit pas ensemble au moment où plus personne ne vit ensemble.
Par exemple, le Kazakhstan, il avait tout à fait d'accord construire certaines relations économiques et politiques. C'est les Russes qui ont perdu cette possibilité.
Écoutez, le Kazakhstan, il avait peur d'une chose. Les Russes avaient envisagé de le couper en deux, de garder la partie nord et de laisser la partie sud au Kazakh. Et aujourd'hui, les Russes au Kazakhstan sont des gens très malheureux. Leur situation est très difficile. Ils sont des sous-citoyens du Kazakhstan, même si on leur dit qu'ils sont des citoyens à part entière.
Puisqu'on est dans dans l'histoire des empires, et en plus dans une librairie, je me permets de faire de la promotion pour un livre qui va tout à fait dans le sens que vous dites. C'est un atlas, ça vient de paraître chez Hachette Littérature, ça s'appelle Atlas du millénaire et sous-titre La fin des empires. C'est un livre absolument passionnant, fait par Gérard Chalian. Et effectivement, toute l'histoire du XXe siècle expliquée par la fin des empires. À qui la parole?
Je crois qu'il y a un monsieur qui lève la main, non? Voilà. Monsieur, vous pourriez demander...
Voilà, attendez, ça arrive. Après le fait la publicité pour des livres indépendamment de ceux de Mme Carrère d'Encausse, évidemment. Excusez-moi.
Après le congrès de Tours, est-ce que le parti bolchevique a eu des relations étroites, politiques et financières, avec le Parti communiste français?
Oui. Pour une bonne raison, c'est que ça fait partie, si vous voulez, de la conception de Lénine, pour qui, le point premier de son programme, c'était la Révolution mondiale. La Révolution mondiale n'étant pas arrivée, c'était la mobilisation des partis communistes qui étaient quasi inexistants. Il faut bien dire que les partis communistes de son modèle étaient quasi inexistants au lendemain de la Révolution russe. Et le congrès de Tours a été un des éléments déterminants de la naissance de partis sur le modèle russe, tout en étant tout à fait minoritaire. Le congrès de Tours a vu surgir un petit groupuscule qui est devenu parti communiste en y mettant du temps. Mais d'emblée, le pouvoir bolchevique l'a soutenu. Et au troisième congrès du Comintern, en 1921, les communistes français sont... Il y a des communistes français qui sont présents. Les premiers communistes français, ceux qui ont, au fond, sont les pères de la rupture du congrès de Tours, sont des Français qui se trouvaient en Russie en 1919, soit des militaires, soit des gens qui exerçaient des activités quelconques, d'enseignement ou autre chose, qui se trouvaient accidentellement en Russie au moment de la Révolution et qui, en 1919, au moment du premier congrès du Comintern, ont été là et se sont présentés comme les communistes français. Mais ils ne représentaient rien du tout, ils étaient des personnalités isolées. Alors au deuxième congrès, ils sont déjà un peu plus représentatifs, et au troisième congrès, il y a eu une vraie délégation, et à ce moment-là, le Comintern est fondé pour être le parti mondial de la Révolution, mobilisant les autres partis. Et naturellement, ça entraîne la nécessité de distribuer des subsides. Et ces subsides ont fonctionné, ces subsides et cette orientation, c'est plus qu'une orientation, cette direction qui est imposée au parti. Et d'ailleurs, les 21 conditions étaient 20 au départ, et on a ajouté une 21e précisément, qui correspondait aux directives du Comintern. Tout cela fait que même ce parti naissant a été pris en main, mais aussi soutenu dès l'origine. Et les subsides ont fonctionné jusqu'à la fin de l'URSS. Maintenant, le Parti communiste est pauvre parce qu'il n'a plus de subsides. Mais jusqu'à la fin de l'URSS, il a eu, comme tous les partis communistes, une aide, une assistance permanente.
Question ? Je vais, bon, on a encore 10 minutes, je vais me permettre de vous en poser une.
Vous avez un stock de questions.
Non, pas. Vous parlez à la fin de l'ouvrage de la façon dont, puisque vous employez l'expression, Lénine concevait la révolution culturelle. C'est évidemment une notion qui n'a rien à voir avec... ce que la Chine a pu faire. Qu'est-ce qu'il attendait de sa révolution culturelle?
D'abord, la notion de la révolution culturelle de la Chine, de Lénine, c'est une notion qui touche à la culture et qui ne touche pas aux politiques. Il va de soi pour lui que... Mais ce n'est pas un outil politique, ce que ça a été en Chine. Ce n'est pas un outil de combat. C'est tout simplement un moyen de mettre toute la culture sous l'autorité du parti, de la mobiliser. Et en même temps, alors je dirais, Lénine était tout de même... C'était un homme cultivé, il faut le savoir. Ça n'était pas un analphabète. Il appartenait à une famille hautement cultivée. Il avait reçu une remarquable éducation. Il était très intelligent. Et il a toujours été mal à l'aise avec ce problème. C'est une chose qu'il faut savoir. C'est son successeur Staline qui était à la fois d'un milieu plus simple et qui n'avait pas reçu la même éducation que lui, n'avait qu'une seule idée, c'est que les gens devaient écrire ce qu'on leur disait ou faire la musique, puisqu'il y a cet exemple merveilleux du pauvre Chostakovitch à qui on a un jour, Beria, a tapé sur un piano, a donné un coup de poing sur un piano, a dit voilà ce que c'est que la musique socialiste. Bon, il lui a donné une leçon. Mais ce n'était pas le cas du tout de Lénine. Il n'avait pas ses idées primitives. Il s'intéressait à la littérature. Ça, c'était un homme de l'écrit. Il s'intéressait peu à la musique. Il pleurait en écoutant une sonate de Beethoven que jouait Inessa Armand. Mais à part ça, il avait les larmes aux yeux. Mais à part ça, la musique lui était indifférente. Et quant à la peinture, n'en parlons pas, c'était pas du tout dans ses curiosités. Il n'en est pas moins vrai que, homme de culture, il n'avait pas l'idée véritablement qu'on puisse mobiliser des écrivains, qu'on puisse transformer l'art en une machine de propagande pure et simple. Alors, c'est pour ça que ses propos ont toujours été assez ambigus. Révolution culturelle, c'est pour lui, d'une part, que le monde de la culture ne soit pas un monde de pensées différentes, qu'il ne propage pas, une philosophie de l'existence ou une pensée différente. Là-dessus, il était très ferme. Les intellectuels devaient être dans la ligne générale, dans le projet général du parti et de l'État qu'il avait fondé. Mais en même temps, il dit, au fond, les écrivains n'ont pas à être soumis complètement à un contrôle constant. En revanche, il considérait qu'il y avait tous ceux qui devaient travailler, on peut dire les agents culturels, travailler à édifier une sorte de mobilisation culturelle de la société et qui devaient lui idéologiser toute la perception de l'art, de la culture pour tout le monde, depuis l'enfance jusqu'à la suite. Alors, derrière cette vision un peu qui a l'air un peu flexible, la pratique l'a été moins. D'abord, on a mobilisé des grands écrivains pour des tâches qui étaient scandaleuses. Mayakovsky, par exemple, il s'est lancé avec enthousiasme dans la Révolution et il a fait ce poète de talent, dessinait des affiches de propagande avec la bénédiction de Lénine qui trouvait ça épatant, des affiches de propagande épouvantables pour un grand poète, il dessinait très bien. Où il était écrit, il faut se laver les mains avant d'aller à table, il faut cirer ses chaussures parce que c'est plus convenable, etc. La poésie réduite à ça, c'était cette mobilisation d'un poète de talent a été terrible et ça explique que, bon gré mal gré, on poussait des grands écrivains vers cela et le nombre de grands écrivains qui se sont suicidés témoigne de leur désespoir quand ils se sont rendus compte que tout de même ils avaient perdu leur génie au bénéfice, c'est le cas de Yessénine, c'est le cas de Mayakovsky.
On l'a vu ailleurs à d'autres moments qui ont failli perdre leur génie.
Tout à fait, mais c'est redoutable, vous comprenez. Et ça, Lénine était à la fois convaincu qu'il fallait respecter le génie des créateurs, mais en même temps qu'il fallait malgré tout qu'ils mettent leur création au service du système politique. Alors, il a eu des réactions très ambiguës. Et puis alors, ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, enfin ceux qui ne rentraient pas dans son schéma, alors là, ça a été très simple. Sa grande idée a été qu'il fallait les expulser immédiatement. Et il avait dressé lui-même une liste de tous les intellectuels qui devaient être expulsés de Russie vers 1922. Il subissait des pressions, les mémoires d'écrivains le montrent. Et ils avaient peur d'être arrêtés, ou ils étaient arrêtés. Et puis en 1922, il y a eu les pressions internationales. La Russie commence à devenir respectable. La Russie révolutionnaire commence à devenir respectable aux yeux du monde. Par conséquent, il ne faut tout de même pas que des figures de proue du monde de l'art soit persécuté, et c'est à ce moment-là qu'il dresse la liste des gens qu'il faut expulser immédiatement pour que, en exil, au moins, ils ne dérangent pas leurs compatriotes. Il y a toujours eu la peur, le respect, au fond, de la création intellectuelle, le sentiment que on ne peut pas la lâcher comme ça, que ça joue un rôle, et puis en même temps, le désir que jamais elle n'échappe au système. Alors ça, c'est ce qui explique l'ambiguïté de sa position. Mais c'est l'héritage qu'il laisse à ses successeurs qui, eux, considèrent qu'il faut mobiliser. Mais en même temps, il a laissé le champ libre à Lunacharsky, qui était un de ses collaborateurs, qui a été le ministre de l'enseignement public et qui était, au fond, qui ne s'intéressait pas à l'enseignement public, qui s'intéressait à la culture, et qui, lui, invente la culture prolétarienne, le prolétkult. Idée qui faisait un peu rire Lénine. Il le dit, qu'est-ce que c'est que la culture prolétarienne ? Ça n'existe pas. Mais Lunacharsky, lui, élabore toute une théorie selon laquelle, de toute façon, la culture antérieure à la Révolution est morte, et c'est ce qui explique la position difficile des créateurs, à qui on dit vous êtes libre, mais à qui Lénine dit ça, mais à qui le ministre qui est chargé de ces problèmes explique tout à fait posément que où on se coule, on devient un artisan de cette fondation d'une culture prolétarienne d'un type tout à fait nouveau, ou alors, on ne peut pas exercer son métier parce qu'on n'a pas de place dans l'univers qui se crée. Et ce Proletkult a été... Alors, la dimension du Proletkult est extrêmement amusante, parce que il était destiné, à évacuer tous les vieux systèmes de valeurs. La religion, évidemment, toutes les références à un univers d'organisation sociale tel qu'il existait en dehors du communisme, et au-delà, a façonné une société qui, dans la première phase léniniste, devait être une société égalitaire. Alors l'idéal, à ce moment-là, du Proletkult, c'est le héros anonyme. Et au fond, dans le Proletkult, les créateurs ne devaient plus être des créateurs. Le créateur, c'était l'ouvrier anonyme, et l'écrivain devait tout simplement lui servir de porte-plume, parce que l'ouvrier anonyme ne savait pas toujours écrire. Donc ça faisait disparaître complètement, et ça explique l'histoire de Mayakovsky avec ses panneaux. C'est très démoralisant pour les intellectuels, et ils en ont terriblement souffert, et je vous dis, ça les a souvent conduits au suicide. Et dernier point, la police les a utilisés. Dès le début, puisqu'il ne faut pas oublier tout de même que c'est sous Lénine qu'avait été inventé l'ancêtre du KGB, qui est dans sa première forme, et la Tchéka, qui est née dans la nuit où se prépare le coup d'État. Ça n'est pas une invention postérieure, ce qui montre bien qu'une police secrète d'État fait partie du système à l'heure où on va prendre le pouvoir. Elle naît à ce moment-là, et cette police a aussi utilisé les écrivains. Et un des secrets du suicide de Mayakovsky ne réside probablement pas seulement dans son désespoir de voir son génie gaspillé, mais tout simplement dans les pressions que la police politique faisait sur lui, parce que il fallait qu'il contribue davantage au système.
Alors, est-ce qu'il y a encore une question? Oui, monsieur.
Il y en a
deux. Oh là, attention, pas trop quand même, hein.
En deux mots, où en est le communisme aujourd'hui et comment voyez-vous la médecine?
Alors écoutez...
En deux mots.
Bon, le communisme, ça dépend où. Dans les anciens États communistes, ils ne se portent pas tellement bien. Il y a des partis communistes, mais la plupart rêvent d'être des partis sociaux-démocrates. Alors en Russie, le Parti communiste ne peut pas être social-démocrate parce que sa clientèle, qui est une clientèle de gens âgés, qui sont nostalgiques d'un passé qui n'était pas spécialement un passé communiste à leurs yeux, mais le passé de grandeur de l'Union soviétique. C'est ça tout de même la vérité. La grande clientèle du Parti communiste, ce sont ces gens âgés relativement moins éduqués, pour qui l'humiliation russe est intolérable. Plus ils ont pour clientèle, ça se voit dans les élections, dans la carte électorale, les régions, les anciennes régions prospères, mais les régions d'industrie militaire, etc., où il y avait vraiment des statuts privilégiés, qui sont aujourd'hui ruinés par l'effondrement de ce système. Alors, ce n'est pas une clientèle qui aimerait que les gens se réclament tout d'un coup de la social-démocratie, forcément. Et ça explique que les responsables du parti soient obligés de, même si parfois ils ont des tentations, de camper sur une ligne qui est une ligne extrêmement orthodoxe, léniniste, en ce sens. Bon. Alors, après, le titre, monsieur, alors là, il est commencé, puis il n'est pas commencé, ça dépend si... je veux dire que le système politique a évolué, c'est tout à fait clair, puisque le détenteur du pouvoir n'est plus le président de la République, il l'est constitutionnellement... Mais pratiquement, c'est le chef de gouvernement investi par le Parlement, ce qui était choisi par le Parlement, ce qui est un fait tout à fait nouveau et accepté par le président. Le système a évolué. Le président reste détenteur d'un pouvoir immense constitutionnellement, et c'est très important parce qu'il est le garant de la démocratie. Et qu'en ce moment où parfois le Parti communiste exerce s'efforce d'exercer des pressions sur lui, c'est très clair dans ses tentatives de limiter la liberté des médias, à ce moment-là, le président de la République se sert de son autorité pour donner un coup d'arrêt. Et c'est un de ses grands mérites. Et il est manifestement conscient de ça. Bon. Il faudrait inscrire ça dans la Constitution, certainement, mais tous les candidats au pouvoir dans l'avenir, ils sont pour qu'on limite le pouvoir du président, mais pas pour que ça soit dans la Constitution, parce qu'ils se disent que s'ils sont élus, ils aimeraient autant avoir autant de pouvoir que lui. Ce qui est tout à fait humain. Bon. Et après Eltsine, ça sera l'élection qui prendra place le jour où il aura disparu, parce que probablement il ne démissionnera pas, il est très conscient de son rôle de garant de la démocratie. Le jour où il aura disparu, ça appartient à Dieu. De toute façon, il y a des candidats dont certains sont très bien. Par conséquent, je dirais que les choses de ce côté-là, on voit à peu près qu'elles devraient continuer normalement. Après tout, en 7 ans, la démocratie n'a pas été perdue. Même malgré la crise, elle est là.
Voilà, il est temps de nous arrêter. Pour terminer, je voudrais juste poser une dernière question à Madame Karadankos, parce que soit elle est stupide où elle n'y répond pas, et de toute façon, elle peut y répondre par oui ou par non. À lire votre bouquin, j'ai eu l'impression qu'au fond, elle, s'il n'était pas russe, c'était un Européen. Et s'il avait été russe, est-ce qu'il aurait pu réussir ?
Vous avez raison, c'était un Européen qui n'aimait pas tellement la Russie. Hein. D'abord, il y a très peu vécu, puisqu'il l'a quitté en 1900, c'est-à-dire il a vécu jusqu'à 30 ans, un quart de siècle, il est revenu après. Mais enfin, le gros de sa vie d'adulte s'est passé ailleurs. La Russie était une société paysanne, il détestait les paysans, il appelait ça la barbarie asiatique, et il souhaitait faire la révolution ailleurs. La preuve est que quand la révolution a éclaté, il était en Suisse, on est venu lui dire, camarade Lénine, il y a la révolution, ça c'était en février 17, il a dit, écoutez, soyons sérieux, je l'attends ici. Et il attend, ça, on peut dire qu'on attend toujours. Bon, s'il avait été russe, il aurait peut-être été plus près de son peuple et moins, je dirais, différent, encore que, on ne sait pas, parce que Staline était géorgien, mais il y avait des Russes là-dedans. Il aurait peut-être tout de même été plus sensible à l'état de la société. Mais l'état de la société, il la connaissait plutôt dans les livres que dans la réalité. Hein. Mais son désir, c'était de faire l'Europe en Russie, ou de tirer tout vers l'Europe. En tout cas, de faire la révolution en Europe, s'étant servi du détonateur russe.
Voilà, merci.
Est-ce que je suis stupide ou est-ce que je vous ai répondu ?